Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Canal Académie le docteur Jacques Gonzalez, qui est professeur à la Pitié-Salpêtrière, lauréat de la Faculté de médecine de Paris, pédiatre reconnu et lauréat de l'Académie nationale de médecine. Alors, cher Jacques Gonzalez, vous êtes déjà venu nous rendre visite ici à Canal Académie. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la détermination du sexe chez les humains. Pourquoi ce titre? De quoi s'agit-il? Tout simplement d'analyser d'un point de vue strictement médical la différence entre un homme et une femme, ce qui conditionne notamment le choix du prénom à la naissance. Il s'agit d'une problématique qui soulève des questions beaucoup plus complexes qu'on ne le croit et qui fait l'objet de nombreuses recherches encore. C'est le professeur Gonzalez que j'ai devant moi qui va nous en parler, un embryologiste spécialiste de la fécondation in vitro, mais aussi pédiatre, médecin du sport. Il appartient encore comme jeune retraité bénévole à l'unité INSERM 782, dont la thématique est endocrinologie et génétique de la reproduction et du développement, c'est-à-dire en plein dans notre sujet. Notre orateur, Jacques Gonzalez, est aussi l'auteur de deux livres, Initiation à l'histoire de la médecine et des idées médicales, publiés chez Heure de France en 2005, et Histoire naturelle et artificielle de la procréation, publié chez Bordas, Larousse, il y a plus de 12 ans, et qui est devenu un classique. Alors, professeur Gonzalez, comment scientifiquement devient-on fille ou garçon ?
Merci de me recevoir, cher Axel Mauger. Merci pour cette très belle présentation. Face à un adulte, chacun d'entre nous se sent capable de se prononcer sur le sexe de son interlocuteur. C'est soit un homme avec sa voix grave et sa pomme d'Adam saillante, sa barbe visible même si elle est rasée, ses épaules plus larges que le bassin, ou bien c'est une femme avec son développement mammaire, sa voix plus aiguë, son bassin plus large que ses épaules. Ces caractéristiques forment ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Pourquoi secondaires? Parce qu'ils apparaissent avec la puberté, au cours de l'adolescence, dans des zones anatomiques bien déterminées. La puberté a pour étymologie le mot pubère, qui signifie poil en latin, et qui est aussi à l'origine du mot pubis. La puberté étant marquée, comme on le sait, par l'apparition de poils, tant chez le garçon que chez la fille.
À la naissance, les caractères sexuels secondaires sont donc absents?
Ah, c'est exact. À la naissance, celui ou celle qui assiste à l'accouchement annonce « c'est une fille, c'est un garçon ». À partir d'un caractère sexuel primaire, il y a un pénis ou il y a une vulve.
Mais aujourd'hui, on peut savoir le sexe d'un enfant avant la naissance?
Oui, tout à fait. Depuis une vingtaine d'années, l'échographie a rendu possible l'examen des organes génitaux des fœtus, ce qui permet d'annoncer aux parents le sexe de leur enfant qui va naître, pour ceux qui le veulent. Le médecin respecte ce choix.
N'y a-t-il pas des dérives dans certains pays?
Il y a en effet des pays où ces progrès, si utiles médicalement, servent de prétexte à des dérives, des interruptions de grossesse, par exemple, parce que l'enfant n'est pas du sexe voulu. Je ne ferai pas de commentaires sur ces abus terribles.
Est-ce qu'on voit aussi en échographie des organes plus internes comme l'utérus ou les gonades et à partir de quand?
Oui, bien sûr. Vous m'invitez à vous expliquer comment se forment ces organes constitutifs de l'appareil génital. C'est essentiel pour comprendre l'origine des malformations génitales, des malformations qui sont fréquentes. Plus d'un nouveau-né sur 100 présente ce type de malformations qui sont souvent associées à des anomalies urinaires et rénales. Il faut tout d'abord parler de ce qui se passe au début du deuxième mois de la grossesse, à la cinquième semaine pour l'embryon. Il ne devient fœtus qu'à la fin du deuxième mois. À ce stade, c'est un embryon de quelques millimètres, moins d'un centimètre. Et à ce stade, rien ne distingue un futur garçon d'une fille. L'appareil génital est indifférencié. Il y a bien deux gonades, mais ce ne sont pas encore, ce sont ni des testicules, ni des ovaires, avec deux canaux qui en partent de chaque côté, un canal de Wolf et un canal de Müller.
Wolf et Müller?
Oui, ce sont les noms des deux savants qui ont décrit ces canaux au XIXe siècle.
Cette cinquième semaine, si je comprends bien, constitue donc un tournant.
Oui, précisons que nous parlons de la cinquième semaine pour l'embryon. Mais pour la femme, cette date est généralement imprécise. Elle ignore souvent depuis combien de semaines elle est enceinte. Le développement embryonnaire, lui, est d'une précision absolue. Et c'est à partir de cette cinquième semaine de vie embryonnaire que des différences apparaissent selon le sexe, des différences limitées aux seules gonades.
Si on prend le cas du garçon, il va donc y avoir apparition de testicules.
C'est cela. Les deux gonades se transforment en testicules chez le garçon et se mettent à produire deux types d'hormones. D'une part, des androgènes, c'est-à-dire des hormones masculinisantes comme la testostérone. Ces hormones ont deux effets. Elles font croître les canaux de Wolf, qui schématiquement deviendront les canaux qui conduisent le sperme des testicules jusqu'à l'urètre chez l'adulte. Ces hormones mâles vont provoquer plus tard, à partir du troisième mois de la grossesse, la croissance progressive du tubercule génital. Leur second effet concerne donc la formation du pénis et s'ajoute la descente des testicules hors de l'abdomen dans les bourses.
Mais vous avez dit deux types d'hormones.
Oui, je vois que vous suivez. Les testicules embryonnaires produisent outre la testostérone à cette même période, l'hormone antimullérienne qui, comme son nom l'indique, va provoquer la destruction progressive des canaux de Müller.
Mais ce n'est pas la même chose si c'est une fille.
En effet, les gonades féminines, les ovaires, ne produisent pas d'hormones antimullériennes, de sorte que ces canaux de Müller vont persister. Et ils formeront, comme pour l'homme, des tubes reliés aux gonades. Ce sont les trompes, et en fusionnant, l'utérus, et même une partie du vagin.
Mais ces ovaires produisent-ils aussi des hormones comme les testicules ?
Eh oui, mais pas des hormones mâles. Ce qui explique la disparition des canaux de Wolf chez la fille et l'absence de croissance du tubercule génital. Ce sera le clitoris. Quant aux ovaires, il reste à l'intérieur de l'abdomen.
Jacques Gonzalez, vous parlez d'un embryon qui devient garçon ou fille à la cinquième semaine, mais cet événement est-il lié au hasard ?
Non, pas du tout. Il nous faut encore remonter le temps et en venir au tout début de l'histoire. Tout est programmé génétiquement dès la fécondation.
C'est-à-dire que la détermination du sexe résulte de la pénétration d'un ovocyte par un spermatozoïde mâle ou féminin, si j'ose dire.
C'est exact. Tous les ovocytes possèdent normalement 23 chromosomes, dont un chromosome X. En revanche, il y a deux sortes de spermatozoïdes. Tous portent 23 chromosomes, mais certains possèdent un chromosome X, d'autres un chromosome Y. S'il y a fécondation, faisons l'addition. 23 plus 23. Tous les embryons possèdent 46 chromosomes, mais dont 2X pour les filles et 1X et 1Y pour les garçons.
La présence du chromosome Y est donc cruciale, si je comprends bien.
Oui, on considère, si on veut rester très schématique, que sans chromosome Y, la détermination sexuelle se fait dans le sens féminin. S'il y a un chromosome Y, et plus précisément la présence d'un gène sur ce chromosome, le gène SRY, la gonade devient un testicule avec toute la cascade de conséquences que nous avons vues, la formation des gonades dans un premier temps, puis la constitution des conduits génitaux à partir d'un seul type de canal, soit Wolf pour les garçons, soit Müller pour les filles. Enfin, à partir du troisième mois, s'étalant sur plusieurs mois, la formation des organes génitaux externes.
Nous voyons ainsi plus clairement quand et comment se développe normalement l'appareil génital. Merci. Je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission.
On connaît Alexandre Dumas sous les traits du génial écrivain. Notre auteur était aussi un incroyable gastronome. Découvrez, grâce à notre chroniqueur Jean Vito, Alexandre Dumas le cuisinier, l'hôte de table, l'inventeur de recettes comme le poulet à la ficelle, les pieds d'éléphant et la queue de kangourou. Le talent et l'imagination de Dumas à table, une émission qui vous est servie sur le site de canalacademy.com en libre écoute et libre téléchargement.
C'est la suite de notre émission en compagnie du docteur Jacques Gonzalez, avec qui nous évoquons la détermination des sexes. Cher docteur, cher Jacques Gonzalez, nous avons vu dans la précédente partie d'émission quand et comment se développe normalement l'appareil génital. Depuis quand sait-on tout cela ?
De 1900 à 1950, on a opposé l'acquis à l'inné, l'acquis étant illustré par les effets spectaculaires des hormones. Cette découverte des hormones vers 1900 a donné naissance brutalement à une discipline, l'endocrinologie, qui a longtemps relégué au second plan la place de la génétique dont l'essor a été bien plus progressif. Ce n'est que dans les années 50 qu'en France, la génétique a été reconnue comme discipline. Sa place est devenue incontestée dans la formation des appareils génitaux.
C'est à cette époque qu'on a aussi décrit l'ADN.
Oui, et en 1956, on découvre que toutes les cellules humaines possèdent 46 chromosomes, dont deux chromosomes sexuels. On observe aussi qu'une femme qui n'a qu'un seul chromosome X est stérile. Elle présente certaines particularités physiques qui constituent ce qu'on appelle le syndrome de Turner, une anomalie fréquente, un nouveau-né sur 2000. De même, l'homme porteur d'un X supplémentaire ne peut pas engendrer. Il est porteur d'un syndrome de Klinefelter, de 47 chromosomes, dont 3 chromosomes sexuels, XXY. Ce sont là deux exemples fréquents d'anomalies cytogénétiques qui touchent essentiellement les gonades. C'est pourquoi elles sont source de stérilité, sans entraîner de difficultés sexuelles, puisque les organes génitaux externes sont normaux.
Vous citez des cas où il y a des anomalies de nombre des chromosomes sexuels. On a aussi parlé, il y a quelques années, du fameux chromosome du crime. De quoi s'agit-il ?
Vous faites allusion à une étude publiée en 1965 qui annonçait que dans une population d'hommes incarcérés pour des affaires criminelles, on avait trouvé un certain nombre de sujets porteurs de deux chromosomes Y. Cette corrélation a été infirmée ultérieurement. On sait aujourd'hui qu'il y a des hommes porteurs de deux chromosomes Y sans incidence grave sur leur comportement ni sur leur descendance.
Vous avez parlé des chromosomes. Si on parlait des gènes, ce n'est pas la même chose.
Cette distinction est en effet importante. On distingue la cytogénétique de la génétique, si on est puriste. Les gènes correspondent à des fragments d'ADN qui sont, eux, invisibles chez l'homme. Plusieurs gènes responsables de la détermination du sexe, comme le gène SRY, ont été identifiés en 25 ans. Les gènes programment tout, en particulier la production d'hormones, de sorte qu'aujourd'hui, on ne doit pas opposer gènes et hormones dans la détermination sexuelle, mais les associer.
Nous avions parlé la fois dernière de l'hormone antimullérienne produite par les testicules et qui joue un rôle majeur dans la constitution des canaux génitaux.
Oui, en effet, les canaux de Müller dégénèrent chez le garçon sous l'action de cette hormone, tandis qu'ils forment l'utérus et les trompes chez la fille. Il est bon de savoir que la découverte de l'hormone antimullérienne et de son mode d'action est en grande partie un succès de la recherche française. L'unité INSERM 782 à laquelle je prête mon concours, comme vous l'avez dit, est dirigée par Jean-Yves Picard. C'est lui qui, collaborant avec Nathalie Josseau, la pionnière dans cette recherche, a isolé cette hormone en 1986. Nathalie Di Clémente, une élève de Nathalie Josseau, a mis en évidence quant à elle, en 1994, des récepteurs qui permettent à cette hormone d'agir.
Je suppose que ces recherches ont conduit à des applications pratiques.
Elles sont de plus en plus nombreuses, mais je me limiterai à vous citer un exemple, celui des hommes à utérus, pour employer une formule choc.
C'est en effet un choc. De quoi s'agit-il ?
Il y a des garçons, des hommes, qui ont gardé dans leur ventre des vestiges de canaux de Müller. Ces éléments ont donné naturellement des structures apparentées aux trompes et à l'utérus. Nous recevons dans notre laboratoire du monde entier des échantillons d'ADN dont l'analyse montre une anomalie génétique chez ces hommes, soit une anomalie de l'hormone antimullérienne elle-même, soit une anomalie d'un de ces récepteurs. Ceci nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Dans l'un et l'autre cas, l'hormone antimullérienne a été inefficace pour détruire les canaux de Müller chez ces garçons, d'où la persistance d'un utérus rudimentaire.
Ces hommes ne peuvent donc pas porter une grossesse, mais qu'en est-il de la naissance d'hermaphrodite ?
Oh, un hermaphrodisme désigne la présence chez un même individu d'un appareil génital complet, à la fois féminin et masculin, c'est-à-dire avec à la fois des ovaires et des testicules. C'est extrêmement rare et ici encore non fonctionnel. Plutôt que d'hermaphrodisme, nous sommes confrontés à des désordres de la différenciation sexuelle. Ils sont plus fréquents qu'on l'imagine. Chaque année en France, un enfant sur 4500 présente ce type de trouble. Il s'agit en général de pseudo-hermaphrodisme, un sujet qui a des testicules par exemple, mais qui est porteur de certains caractères sexuels primaires de type féminin, comme une vulve, certes anatomiquement imparfaite.
En restant sur cet exemple, que s'est-il passé alors ?
Cet embryon garçon a développé normalement des testicules, qui ont produit tout à fait normalement des hormones mâles, mais les tissus qui ont reçu cette testostérone sont restés insensibles à l'action de cette hormone mâle. Pourquoi ? Ces tissus n'ont pas de récepteur à la testostérone, et ceci par anomalie génétique. On dit que ce sujet a une insensibilité aux androgènes.
C'est-à-dire que dans cet exemple précis, le message hormonal a été bien envoyé, mais n'a pas été réceptionné.
Exactement. Quelles sont les conséquences ? Je passe sur le devenir des canaux et j'en viens directement au développement des organes génitaux externes. Le tubercule génital ne peut pas grossir. Les bourses ne peuvent pas se former alors qu'il s'agit d'un garçon. À ce niveau, le sexe de ce nouveau-né reste indéterminé, d'aspect vulviforme, sans être vraiment celui d'une fille. Ses insensibilités aux androgènes sont plus ou moins complètes, ce qui explique la variété des formes anatomiques observées et le véritable casse-tête pour décider du sexe de ses enfants. Cette situation est encore plus délicate pour les familles et surtout pour l'enfant quand l'anomalie est découverte plus tardivement, quand la puberté ne s'y déroule pas comme prévu.
Et pour cause, c'est un garçon. Je suppose que les petites filles peuvent aussi avoir des malformations génitales pour des raisons presque symétriques.
On peut en effet prendre l'exemple des petites filles qui ont reçu au cours de la grossesse des hormones mâles. Ce n'est pas la mère, la femme enceinte elle-même qui est en cause, mais ce sont des glandes appartenant au fœtus, les glandes surrénales, appelées ainsi parce qu'elles sont situées au-dessus des reins. Comme les gonades, les surrénales fabriquent des hormones stéroïdes, mais par anomalie génétique, cette synthèse hormonale peut être bloquée à une certaine étape. Conséquence, l'hormone dans sa forme finale n'est pas produite. Et il y a accumulation de stéroïdes en amont qui vont masculiniser ce fœtus pourtant bien féminin, avec un clitoris à la naissance évoquant un petit pénis. Il s'agit encore ici d'un pseudo-hermaphrodisme, féminin cette fois, puisque les gonades sont des ovaires.
Merci, docteur Jacques Gonzalez. Même si cela reste complexe, on vient de le voir, nous comprendrons désormais mieux les mécanismes responsables de certaines perturbations du déterminisme sexuel. Je vous propose, chers auditeurs, de marquer une pause et nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite de notre émission.
Ils furent confrères à l'Académie française, Jean d'Ormesson vous parle de Claude Lévi-Strauss. Écoutez le témoignage de l'écrivain à l'occasion du centenaire de l'anthropologue. Il fut son parrain, mais aussi son admirateur. Jean d'Ormesson vous livre des anecdotes et des moments riches d'humanité. Claude Lévi-Strauss par Jean d'Ormesson, une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
C'est la suite de notre émission en compagnie du docteur Jacques Gonzalez et nous évoquons ce vaste sujet de la détermination des sexes. Cher docteur Gonzalez, nous avons vu lors de la dernière partie, sur quelques exemples, par quel mécanisme un fœtus, puis l'enfant qui naît peut être porteur de ce qu'on appelle un désordre de la différenciation sexuelle. Mais en pratique, que dites-vous aux parents, à l'enfant ?
Dans la majorité des cas, il est possible de faire le bon choix du sexe, en accord évidemment avec les parents, et en sachant que c'est le bon choix pour l'enfant, car c'est bien là la préoccupation essentielle. Mais il est des cas où la réponse est très complexe. Et il faut mettre d'abord en œuvre une série d'examens pour aboutir à un diagnostic précis, car il existe près d'une cinquantaine de formes d'anomalies qui peuvent être liées au mauvais fonctionnement d'un gène.
Vous, médecin, vous avez une décision à prendre une fois le diagnostic fait. Dans quel sens élever cet enfant ? Quel prénom lui donner ?
Quand le diagnostic est précisément fait, après un délai qui prend parfois plusieurs mois, il est généralement possible de prévoir l'avenir. L'avenir si on attend, ou si on agit de telle ou telle manière, c'est-à-dire médicalement, chirurgicalement ou en associant les deux thérapeutiques. Le diagnostic final et surtout la thérapeutique à conduire nécessite parfois de longues discussions, parfois aussi sur plusieurs années, entre des médecins de plusieurs spécialités. C'est le choix du sexe de l'enfant, du futur adulte qui est en jeu, avec ses conséquences socio-éducatives notamment. Cette décision est délicate et doit être bien acceptée par les parents, la fratrie et surtout l'intéressé. C'est pourquoi, pour certaines équipes, le mieux est de traiter l'enfant tôt dans sa vie. Pour d'autres, il vaut mieux attendre qu'il ait grandi, mûri pour qu'il fasse son choix lui-même, car c'est toute son existence qui en dépend.
La première étape est donc, si je comprends bien, d'informer les parents, l'idéal étant d'informer l'enfant.
Oui, il y a urgence à informer les parents. Les médecins repèrent parfois pendant la grossesse, grâce à l'échographie, l'existence d'anomalies et font part aux parents de leurs interrogations. Ou bien malheureusement, c'est une découverte faite à la maternité au moment de la naissance. Pire encore, il reste des cas où ces désordres ne sont découverts qu'au début de la puberté et vous imaginez alors la difficulté pour amener à une solution acceptable l'adolescent concerné et ses parents.
Finalement, docteur Gonzalez, la vraie question est de savoir quand intervenir au mieux pour l'enfant afin de lui garder son potentiel. Mais on entend parfois parler de problèmes de détermination du sexe dans le sport de compétition.
Oui, et malheureusement, ces questions strictement médicales, particulièrement intimes et parfois d'une extrême complexité, sont exposées dans les médias sans ménagement pour les intéressés. Je suis personnellement choqué.
Dans l'Antiquité, on s'en souvient, les athlètes concouraient nus, C'était plus simple, non ?
C'est vrai. La question posée est la suivante. Les compétitions sont classées en deux catégories. Celles réservées aux femmes et celles réservées aux hommes. Il s'agit de décider si une athlète femme est bien dans sa catégorie quand elle a été traitée dans l'enfance pour devenir une femme en raison d'un désordre de la différenciation sexuelle. Des thérapeutiques ont visé à supprimer toute virilisation et il y a même des cas où une castration a été pratiquée, c'est-à-dire l'ablation des gonades quand elles contiennent du tissu testiculaire. Même si cette personne ne fabrique plus de testostérone, elle peut en garder des traces, comme la forme de son squelette, une musculature particulièrement développée, une voix plutôt grave. On comprend que la légitimité de sa participation comme femme à une compétition réservée aux femmes puisse être mise en cause.
Est-ce une situation exceptionnelle, docteur ?
Je vais vous donner des chiffres précis. Entre 1972 et 1990, 6561 femmes ont subi des tests. 13 ont été exclues des compétitions, soit une femme sur 505 compétitrices.
Oui, mais alors, quels sont ces tests ?
Le premier a été mis en place lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest en 1966. Il imposait un contrôle gynécologique, l'examen des organes génitaux externes de toutes les concurrentes, et aucune anomalie ne fut constatée sur 243.
Oui, mais c'est plutôt dur pour ces femmes.
Oui, cet examen a été jugé trop humiliant pour les sportives et ce contrôle du sexe a été remplacé en 1968 par un test cytogénétique, la recherche d'un deuxième chromosome X, en colorant un prélèvement fait au niveau de la muqueuse buccale. Mais ce test était délicat techniquement. En 1992, la Fédération internationale d'athlétisme a donc décidé de rechercher la présence du gène SRY dont on a déjà parlé. En 1996, lors des Jeux d'Atlanta, 8 athlètes avaient un SRY positif et 7 présentaient une insensibilité aux androgènes dont on a déjà parlé. Je n'entre pas dans les détails. En 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney, le comité olympique a supprimé les tests en considérant que sa décision constituait une sorte de moratoire.
Oui, mais on a connu depuis cette date quelques histoires retentissantes. Les personnes qui sont victimes de désordres de la détermination sexuelle sont-elles condamnées à être privées de médailles et même de compétitions comme les Jeux Olympiques ?
On ne peut pas imaginer d'organiser des compétitions pour une catégorie d'athlètes qu'on qualifierait d'intersexués. Par conséquent, le mieux serait d'établir certaines règles. Un comité d'experts est actuellement pressenti pour aller dans ce sens.
Cette situation médicale stricte, docteur, ne vient-elle pas interférer avec le dopage ?
Oui et non. On sait que la testostérone favorise le développement musculaire. Si un athlète, qu'il soit homme ou femme, absorbe des androgènes, il accroît sa masse musculaire de manière illicite. C'est le dopage qui est justement combattu sous toutes ses formes. Mais ici, il n'est pas question de dopage illicite. Ce sont des femmes dont l'organisme a produit un temps des androgènes. Le tout est de savoir si cette production a cessé et quand par rapport aux dates de début de leur participation à des compétitions. Leur performance ne doit pas être entachée par la présence de testostérone produite par leur organisme, même à leur insu. Des règles strictes pourraient être édictées à l'avenir, fondées sur des paramètres biologiques et des informations médicales détaillées. Elles serviraient à décider du sexe de l'athlète dans les cas litigieux. Elles resteraient strictement confidentielles. Elles permettraient d'exclure toute polémique.
Oui, alors, autre sujet lié à tout cela. Qu'en est-il des personnes qui veulent changer de sexe ?
Nous entrons ici dans un cadre totalement différent du précédent, puisqu'il s'agit d'hommes ou de femmes sans anomalie génitale qui veulent en quelque sorte revêtir les attributs du sexe opposé. En sport, ce serait une complète tricherie que de changer ainsi de sexe en cours de vie. On parlait de transsexuels, on parle aujourd'hui plutôt de transgenres. Ces gens refusent généralement la classification binaire. Ils ne sont ni hommes ni femmes. Ces personnes se qualifient d'erreurs de la nature, décrivent leur impression d'être dans le mauvais corps depuis toujours.
Ce sont plutôt des hommes ou plutôt des femmes ?
On trouve 5 fois plus d'hommes désirant devenir une femme que de femmes voulant devenir un homme. La chirurgie et la médecine ont la capacité de réussir cette inversion sexuelle qui ne va pas jusqu'à permettre à cette personne de procréer naturellement avec son nouveau sexe. Mais la chirurgie peut permettre à un homme d'avoir des rapports physiques de femme. Certains refusent d'être opérés, d'être transformés complètement.
Nous allons marquer une dernière pause et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, la 4e de notre émission.
Poussé par la passion, par les mots de Picasso, je suis devenu photographe. Ainsi s'exprime Lucien Clergue de l'Académie des Beaux-Arts. Né à Arles en 1934, Lucien Clergue a marqué l'histoire de la photographie du XXe siècle. À ses débuts, il a cherché à travers la photo des correspondances avec l'univers des peintres et des poètes qu'il aimait et rencontrait. Dans ce contexte, il s'est lié d'amitié avec Picasso, une rencontre déterminante. Lucien Clergue célèbre Picasso le Maestro, une émission Carrefour des Arts à télécharger librement sur Canal Académie.
C'est la dernière partie de mon émission avec le docteur Jacques Gonzalez et nous revenons sur cette question, sur ce vaste sujet de la détermination des sexes. Nous en arrivons à notre quatrième et dernière partie consacrée à la détermination du sexe chez les humains avec, bien sûr, mon invité qui est le docteur Jacques Gonzalez. Nous avons vu que la définition médicale du sexe d'un individu est beaucoup moins simple qu'on ne le croit généralement. Vous avez souligné la relative grande fréquence des malformations de l'appareil génital et expliqué quelques mécanismes responsables de ces anomalies. Vous avez enfin évoqué les conséquences pratiques que cela pouvait soulever et les cas particuliers de personnes voulant changer de sexe. Mais il semble que ce sujet soit inépuisable ou est inépuisable, qu'il y a encore place à des discussions et des travaux dans ce secteur de la médecine. Quels sont les axes de recherche actuels, docteur Gonzalez ?
C'est en effet un sujet complexe et la génétique tient une grande place dans la compréhension de la détermination sexuelle. J'ai beaucoup simplifié ce qu'on sait actuellement. Il ne faudrait pas retenir de mes propos qu'on est homme par la simple action du gène SRY et qu'on devient femme par absence de ce gène. Il y a de nombreux autres gènes impliqués dans le développement génital de l'un et l'autre sexe. Il apparaît même, au fil d'études récentes, que des gènes interviennent directement pour orienter le développement d'un embryon vers le sexe féminin. La femme n'est peut-être pas un homme par défaut, comme les travaux sur le gène SRY le laissaient penser.
Il y a donc, si je comprends bien, des travaux génétiques, mais entre les femmes et les hommes, il y a de nombreuses différences anatomiques qui ne semblent pas faire partie vraiment des caractères sexuels si l'on s'en tient à l'appareil génital, comme celle concernant le squelette, la peau, les muscles, la répartition des graisses, tout ce qui fait l'image du corps, il y a des femmes d'apparence plus ou moins androgynes.
Les femmes androgynes ne soulèvent pas de problème médical. Elles ne présentent pas d'ambiguïté sexuelle. Leur corps diffère d'un modèle féminin typique par de simples variantes morphologiques de telle ou telle partie. On est dans le quantitatif et le poids joue un rôle important dans la morphologie du corps. On sait que les hormones sexuelles ont une responsabilité essentielle dans ces différences, mais aussi leurs récepteurs. Et tout n'est pas si simple encore. Je vous donne une clé supplémentaire. Opposer hormones mâles, essentiellement la testostérone, et hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone, serait une grande erreur. En effet, pour transformer de la testostérone en œstrogène, il suffit d'une enzyme, l'aromatase. Et les hommes, comme les femmes, ou plutôt leurs tissus, possèdent cette enzyme.
Ce qui veut dire que chaque homme, chaque femme possède des hormones de l'autre sexe.
C'est exact, mais pas dans les mêmes proportions.
Vous nous avez convaincu que le corps de l'homme et de la femme diffèrent sous l'action des hormones et de leurs récepteurs. Et le cerveau, est-il concerné dans ces différences sexuelles ?
Oh oui, le cerveau est le vrai maître de l'appareil génital, que ce soit pour la reproduction, que ce soit pour la sexualité, avec évidemment des différences très importantes d'un sexe à l'autre. Les hormones sexuelles agissent sur le cerveau parce que dans cet organe existent aussi des récepteurs aux hormones mâles et féminines. Il y a une véritable régulation, une boucle fonctionnelle qui implique le cerveau. Quand par exemple les ovaires d'une femme cessent de fonctionner au moment de la ménopause, surviennent des bouffées de chaleur. Quelle est leur origine ? Les ovaires ne fabriquent plus d'œstrogènes et cette baisse importante agit sur le cerveau, son centre de la thermorégulation, et aussi son centre hypothalamo-hypophysaire qui va envoyer un excès de messages aux ovaires. Un excès car ce centre les stimule en vain. Mais chez la femme plus jeune, cette régulation fonctionne. Et les ovaires, dans ces mêmes conditions, augmenteraient leur production d'hormones. La ménopause est propre à la femme. Chez la femme, l'appareil génital fonctionne de manière cyclique, pas chez l'homme. Et ceci sous l'action du cerveau, plus précisément d'une zone à la base du cerveau comprenant l'hypothalamus et l'hypophyse. Cette petite glande, l'hypophyse, produit deux hormones, FSH et LH, qui agissent sur les ovaires et leur font produire pour l'une des œstrogènes et pour l'autre, la LH, de la progestérone. C'est la production de ces hormones et leurs variations tout au long du cycle qui provoquent l'ovulation, puis les règles en l'absence de fécondation, car le cerveau et plus précisément l'hypothalamus centralise ces informations, ces sécrétions. L'hypothalamus envoie des signaux hormonaux par l'intermédiaire de neurones à l'hypophyse qui, à son tour, envoie des messages hormonaux qui atteignent cette fois les ovaires par voie sanguine.
Puisque cette activité cyclique n'existe pas chez l'homme, on pourrait donc parler du sexe du cerveau ?
Oui. On est certain que, dès la vie intra-utérine, le développement du cerveau est conditionné par les hormones sexuelles. On peut ajouter un fait troublant. Les femmes sont moins sujettes aux accidents vasculaires cérébraux liés à ce qu'on appelle une ischémie, c'est-à-dire une baisse de circulation cérébrale, que les hommes. Quel que soit leur âge, elles sont mieux protégées. L'explication n'est peut-être pas hormonale, puisque cette différence existe avant la puberté et tard dans la vie, bien après la ménopause. Il y a donc bien des différences entre le cerveau d'une femme et d'un homme. Les recherches actuelles portent sur la génétique, comme on l'a dit, mais aussi sur la chimie du cerveau. Par ailleurs, des progrès considérables ont été faits dans la connaissance du fonctionnement de l'ensemble du cerveau grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Des enregistrements de l'activité cérébrale sont faits pendant que des sujets sont soumis à des exercices mentaux, la vue de photos par exemple. Ces études ont mis en évidence des différences d'aptitude entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et on sait aujourd'hui que les femmes ont un cerveau gauche plus développé que les hommes. Ce qui ne veut pas dire plus gros.
Quels sont les apports particuliers de l'un et de l'autre côté du cerveau ?
Plusieurs types de recherches sont développées. Certaines concernent des performances, des aptitudes mentales. La femme se repère mieux dans le temps, c'est le cerveau gauche, alors que l'homme s'oriente plus facilement dans l'espace, c'est le cerveau droit. L'homme, par exemple, peut atteindre un endroit précis en prenant un raccourci. Mais tout ceci est une moyenne statistique avec de larges variations individuelles.
Est-ce que des expériences sont faites aussi sur l'animal ?
Oui, mais il faut être prudent quant aux conclusions. Par exemple, une expérience sur des rats a montré que l'injection de testostérone à la naissance provoque une asymétrie fonctionnelle du cerveau. De là a été mis l'hypothèse d'une corrélation entre la testostérone et le constat que les deux tiers des gauchers sont des hommes.
N'y a-t-il pas aussi inégalité des sexes pour les organes des sens ? L'odorat est, semble-t-il, plus développé chez la femme que chez l'homme.
C'est exact. Il y a des variations au cours du cycle, un odorat majoré aussi en cas de grossesse, ceci en rapport avec le taux de progestérone. Mais la supériorité des femmes dans le domaine sensoriel ne se limite pas à l'odorat. Globalement, la femme est beaucoup plus sensible que l'homme pour le sens du toucher, pour l'équilibre. C'est pourquoi les femmes sont plus aptes à la danse que les hommes. La femme entend mieux que l'homme. D'abord, elle entend deux fois plus fort les sons, mais elle les perçoit mieux. C'est pourquoi les femmes chantent juste, six fois plus souvent que les hommes. Les hormones sexuelles agissent aussi sur les comportements. Typiquement, la testostérone majore l'agressivité et le désir sexuel.
Il a été question récemment de la castration chimique pour annihiler les pulsions des violeurs récidivistes.
Oui, on voit la puissance de cette hormone chez l'homme, mais elle est présente aussi chez la femme. Chez elle, une chute de testostérone, pour une raison ou une autre, ovariectomie, chimiothérapie, entraîne toujours une chute du désir sexuel. La testostérone stimule la sécrétion de dopamine, un neuromédiateur qui, en inondant le cerveau, crée une sensation de bien-être. La sérotonine aussi est impliquée dans les humeurs et les émotions.
D'après ce que vous dites, le désir a un support biologique.
Tout à fait. Le désir né de stimuli exogènes provenant des cinq sens ou de stimuli endogènes, les pensées, les rêveries. Lorsqu'on montre des photos de personnes désirables ou non à des volontaires, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis, le désir sexuel survient en moins de 200 millisecondes, donc bien avant que l'information ne parvienne à la conscience. Un autre constat, plus une femme est amoureuse, plus le gyrus angulaire, pardonnez-moi d'employer des mots pareils, de son cerveau gauche est actif. Ce gyrus angulaire, c'est une circonvolution cérébrale qui est impliquée dans le langage et qui est située près de zones spécialisées dans la vision. Les différences entre l'homme et la femme sont finalement minimes face à la biodiversité de notre monde. C'est leur complémentarité qui a créé l'espèce humaine. C'est cette complémentarité qui en a assuré son évolution et qui doit lui ouvrir un avenir.
Merci docteur Jacques Gonzalez pour nous avoir présenté un sujet aussi complexe avec autant de clarté et je dirais avec une si belle méthode. Merci beaucoup.